Quatrième semaine de Questions d'époque sans Caroline Brouet, mais avec Olivier Pastré, car le lundi, c'est l'économie en question. Bonjour Olivier.
Bonjour Xavier.
Au programme de l'économie en question aujourd'hui, les chiffres, les mathématiques, les statistiques, leur poids dans l'économie et dans la manière dont elles s'énoncent dans le discours commun. Nous en discuterons avec Bernard Guérien qui est économiste et Alain Desrosières qui est statisticien. Tous les chiffres sont-ils faux? C'est le sujet de l'économie en question. Aujourd'hui, dans l'économie en question, nous allons parler des chiffres, car s'ils font partie intégrante de la pratique des économistes, de la manière dont l'économie s'énonce dans le discours commun, que ce soit celui des journalistes ou des politiques, les chiffres ne sont pas sans poser problème, et ceci à différents niveaux. D'abord parce qu'ils peuvent diverger selon le mode de calcul, comme l'a montré par exemple la récente polémique autour des chiffres du chômage publiés par l'INSEE. Ensuite, parce que, à supposer qu'ils soient les mêmes, ils peuvent faire l'objet d'interprétations très différentes. Ça, c'est évidemment l'histoire des controverses théorique entre les écoles d'économistes. Enfin, parce qu'il est fort probable que toute une part de ce qui fait la réalité économique échappe à la quantification, la confiance, par exemple, ou encore le désuet moral des ménages. D'où toute une série de questions. Dans quelle mesure peut-on se fier à un chiffre? Sur quoi sa puissance repose-t-elle? Les mathématiques occupent-elles une place disproportionnée? Quelle part l'économie laisse-t-elle à l'idéologie? Bref, l'économie est-elle une science? De toutes ces questions, nous allons débattre avec deux invités. Alain Desrosières, qui est administrateur de l'INSEE, chercheur au centre Alexandre Coiré, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques, et qui est l'auteur notamment de « Les politiques des grands nombres, histoire de la raison statistique », qui était paru à la Découverte Collection Poche en 2000. Deuxième invité autour de cette table, Bernard Guérien, qui enseigne les mathématiques et l'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et qui est chercheur au Matisse, université Paris 1 CNRS, et auteur tout dernièrement de « L'illusion comique », qui est paru chez Omniscience dans la collection Essai. Alors Olivier Pastré, Bernard Guérien, vous êtes d'accord avec ce que dit Alain Desrosières?
Oui, enfin, je serais quand même peut-être un petit peu moins relativiste parce que lui, il raisonne sur justement des grands agrégats comme ça. Mais enfin, je pense que ce qui est souvent intéressant, c'est comme la comparaison entre les chiffres. Enfin, ce matin, j'ai, par exemple, un exemple simple. J'écoutais Ségolène Royal qui parlait du problème de l'échec à l'université et qui reprenait un chiffre qui est très répandu, qui dit qu'il y a 40% des étudiants qui sont en échec à l'université, etc. C'est elle qui raconte ça, mais c'est le gouvernement qui raconte ça aussi. Pour justifier d'ailleurs ces réformes, ces taux d'échec, etc. Mais d'un autre côté, si on regarde les statistiques données par l'OCDE, alors l'OCDE dit, en France, le taux d'échec en France est plus faible que dans les autres pays, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a 76% des gens qui réussissent en France en moyenne, qui sortent avec un diplôme du supérieur, et 70% en moyenne dans l'OCDE. Donc en fait, on se dit, là, il y a un problème. On voit que, par exemple, aussi, il y a 64% des jeunes, là, qui commencent des études, qui finissent avec le niveau de la licence. 15% qui finissent avec un diplôme équivalent technique. Donc, en fait, il reste que 20% qui sortent sans diplôme. Alors, d'où viennent ces chiffres? Le problème, c'est un petit peu sur la période. C'est-à-dire que, évidemment, moi, qui suis là, qui enseigne aux étudiants en première année et tout ça, je sais que, effectivement, en fin d'année, si on prend nos listings, on va aller là, tu vois que 45% des types qui sont plantés, quoi, qui sont regalés. Alors, on voit l'origine de 45%. Mais évidemment, ce qu'on ne voit pas, c'est que ces gens-là qui ont, par exemple, choisi l'économie, à ce propos, je vous signale que mon livre, ça s'appelle pas, c'est assez drôle, ça s'appelle pas l'illusion comique, non, mais il s'appelle, non, vous avez dit, c'est très intéressant, c'est l'illusion économique. Alors on va en parler avec votre psy, mais bon, voilà. Bon, mais c'est pas grave, c'est plutôt, d'ailleurs, c'est significatif.
C'est très proche l'un de l'autre.
C'est ça, alors on peut en discuter. Bon, alors pour revenir à ça, effectivement, quand on voit un petit peu comme ça, dit oui, il y a 40%, on dit oui, en première année, L1, il y a 40%. Mais ensuite, si on le voit sur le long terme, les cohortes d'étudiants, etc., on voit que finalement, les types, ils ont changé. Ils ont passé d'économie en histoire ou dans d'autres matières. Ils ont peut-être un peu traînaillé d'un à l'autre, mais finalement, ils sont sortis à plus de 60% avec un diplôme licence, etc., et à 76%, presque 80% avec un diplôme. Oui, donc voilà. Mais c'est intéressant d'avoir ces chiffres. C'est intéressant.
Bernard Guérien?
Non, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Et le truc, c'est justement que quelque part, c'est pas qu'on a pas, on a besoin de quelque part plus de statistiques, parce qu'il faut voir des indices selon les catégories. D'ailleurs, c'est ce qui se fait plus ou moins selon les catégories de ménage, etc., etc. Et ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut voir effectivement comment ça se passe. Et donc, les chiffres en soi, ben, c'est pas des chiffres qui sont forcément faux, mais il faut quelque part les raffiner, n'est-ce pas? Et puis aller chercher. Mais c'est très difficile parce que ça demande un grand travail d'aller regarder ça. Alors, il y a, bon, je sais pas si on continue sur l'inflation.
Non, non, allez-y.
Si, oui, bien sûr.
Vas-y. Alors après, il y a évidemment l'optique dans laquelle on peut le prendre, hein. Par exemple, je pense, bon. Le truc qui est important, c'est il y a aussi qui choisit. Bon, Trichet va choisir peut-être un certain indice et d'autres personnes vont en prendre un autre, n'est-ce pas? Bon, d'ailleurs, avant, il y avait un indice de la CGT, n'est-ce pas, qui est pour l'inflation, par exemple. Il y avait des
c'est que la CGT batailles. Fournissait son propre chiffre.
Oui, 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 à l'époque de Malinvo et tout ça. Et Malinvo venait à télé pour expliquer comment c'était fait.
Mais ce
et
qui oui, n'était pas complètement absurde, puisqu'il souhaitait, alors l'indice était peut-être critiquable, mais il souhaitait justement prendre en compte la partie pouvoir d'achat.
Non, c'est pas absurde. Non, je trouve que c'est même très bien. Mais là, évidemment, quand on se trouve devant plusieurs chiffres comme ça, ensuite, lequel va-t-on choisir? Et surtout, ces espèces d'effets d'affichage, tout ça. Moi, je pense, si on prend l'histoire de chômage, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant. C'est, par exemple, si on prend le... Bon, parce qu'on dit en France, il y a un chômage beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis, etc., Europe, tout ça. Mais si on prend le chiffre de chômage, alors, par exemple, en France, 2005, un truc comme ça, aux États-Unis... Je vais voir le chiffre quelque part. C'était, en France, c'était 7,4% pour les 25-54 ans, qui est quand même la tranche d'âge importante, n'est-ce pas? Aux États-Unis, c'était 4,4%. Alors, on dit, ah bon, il y a beaucoup plus de chômage en France qu'aux États-Unis. Mais après, vous regardez le taux d'activité. Et puis, vous regardez le taux d'activité, vous voyez que le taux d'activité en France, c'était 87,6%. Et aux États-Unis, 87,3%. C'est-à-dire, tout simplement, que le taux d'activité était plus grand en France qu'aux États-Unis. Mais il y avait en même temps plus de chômage en France qu'aux États-Unis. Alors, qu'il y a pas. Alors le problème, c'est la différence là. Hein? Alors à quoi ça correspond? Le type qui va insister vraiment, on va dire les États-Unis dynamiques, le chômage, les rigidités, etc., etc. Et ben il va insister sur, il va prendre le chiffre de chômage. Et puis l'autre qui dit non, mais quand même, regardons qui c'est qui travaille, etc. Ben non, c'est le taux d'activité plutôt plus élevé en France qu'aux États-Unis en cette même tranche d'âge. Alors, voilà. Alors là, c'est un choix plus délibéré d'affichage, n'est-ce pas?
Intéressant sur le plan pédagogique.
Non, mais c'est très intéressant, mais ça pose quand même un problème qui est un problème pour le coup presque politique. C'est-à-dire que il y a différentes définitions du chômage qui sont en concurrence les unes avec les autres. Il y a celle aussi d'Eurostat. Bon, et il y a deux questions politiques qui se posent à ce moment-là. C'est d'abord, c'est une définition politique de savoir ce que c'est qu'un chômeur ou pas. Première chose. Et deuxième chose, il y a aussi l'effet produit par le chiffrage. C'est-à-dire que si votre but, le but affiché, l'objectif premier d'une politique est de faire baisser le chiffre du chômage, en fonction de ce que c'est qu'un chômeur ou pas, on peut le faire baisser. Ça a été le cas, notamment ce qui a été dénoncé par une association, un collectif comme les autres chiffres du chômage, qui expliquait très clairement que pour faire baisser le nombre de chômeurs, il suffisait d'augmenter le nombre de radiations des listes de la NPE, ce qui était fait notamment par l'intermédiaire de convocations plus régulières, donc d'absentéisme, donc de radiation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le chiffre, c'est une construction, certes, ça c'est la pédagogie que vous venez de faire tout à fait clairement, mais qu'il y a des effets. Il y a des effets en termes de quelle définition on prend et du coup de quelle politique ça va donner. Bernard Guérien.
Non mais bien sûr. Je pense que on a connu l'épisode du CPE et l'argument était de dire qu'il y avait un chômage des jeunes absolument inacceptable et ce thème du chômage des jeunes vient de façon récurrente et effectivement c'est quelque chose qui nous interpelle. Ceci étant, alors là c'est toujours là où c'est assez intéressant de faire quelque part les comparaisons aussi internationales pour relativiser parce qu'on présente la France comme ayant un problème très dramatique et si on y regarde de plus près c'est une question aussi de mesures statistiques parce qu'il y a je pense qu'il y a un facteur culturel. C'est-à-dire que les jeunes en France, quand on finit l'école, on va à l'université, on étudie, etc. directement. Et donc d'abord, il y a une grande proportion, non, il y a de l'ordre, je sais pas, c'est 60% des gens qui sont scolarisés. Alors, est-ce qu'on va prendre les chômeurs par rapport à la population actifs, ceux qui ne sont pas scolarisés, ou par rapport à tout le monde. Alors c'est ce qu'on fait en France, c'est qu'on prend par rapport à tout le monde. Alors évidemment, là, on a un chiffre énorme. On dit rien. Mais si on enlève les scolarisés, finalement, la proportion est à peu près la même que dans les autres pays. Alors là, il y a une question essentielle. En plus, dans ce pays, il y a une tradition des étudiants d'aller travailler, de faire un boulot. Puisqu'on est aux États-Unis, il y a 45% d'étudiants qui bossent à côté, etc. En France, c'est beaucoup plus faible. Alors, à quoi ça correspond, ça, exactement? Si on prend ces chiffres, si on les compare les uns après les autres, eh bien, on se dit, finalement, il n'y a pas un problème de chômage des jeunes plus dramatique en France qu'ailleurs. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, si on regarde, je pense que c'est un système un peu, on est dans un système capitaliste. Alors, moi, dans ma jeunesse, j'ai appris Marx.
Ah bon?
Je pense qu'il avait, oui, voilà. Il y a ce qu'on appelle... Bon, soit il y a les économistes qui disent qu'il y a la main invisible du marché, n'est-ce pas ? Il y a la main invisible qui... Mais ça, c'est pas très sérieux, c'est de la magie. Voilà, on se dit, bon, le capitalisme, c'est un système plus ou moins chaotique, il y a besoin des gens d'un côté, on en vire de l'autre, il faut compenser, on a besoin d'avoir un réservoir de main-d'œuvre, etc.
Bernard Guérien, sur la manière dont les chiffres peuvent influer sur les comportements.
Bon, de toute façon, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, hein, le chiffre de chômage des jeunes, la façon dont on le mesure, ça va influencer beaucoup, je vous dis, hein, notamment le CPE, etc. C'était vraiment pour influer, pour agir pour les jeunes, pour libéraliser. Alors la croissance américaine aussi, on nous a... Alors maintenant, il se calme un petit peu, mais on nous a, pendant un certain nombre d'années, mis en avant la croissance américaine extraordinaire. Mais évidemment, parce que c'est toujours quand on met en avant des pays comme ça, c'est pour dire, non mais attendez, ici, on a trop de rigidité, vous voyez, trop de charges. Vous voyez, même le mot charge, c'est très intéressant, c'est au niveau idéologique, parce qu'avant, on disait pas charge, on disait cotisation sociale. Puis maintenant, tout le monde dit charge. Vous voyez, déjà, le poids des mots, hein, c'est le fardeau.
On fera une émission sur les mots après avoir fini sur les chiffres.
Non, mais c'est ça. Le choix des mots est très important d'un point de vue idéologique. Et le choix des modèles. Alors, quand on va choisir un modèle de référence pour pouvoir faire passer une idée, je pense pas que les gens qui font ça, je pense pas que ce soit des gens qui fassent ça délibérément, qui soient des truands.
Il n'y a pas de
complot. C'est qu'ils croient sincèrement à ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils vont faire. Si on prend l'histoire du paquet fiscal, alors là, il y a une espèce de petit dérapage.
Parce qu'Olivier avait posé la question, effectivement, sur le chiffrage du paquet fiscal entre 2008
bon, le chiffrage,
à 15.
À 15, mais là, sur quelque chose de très précis. Oui.
Mais le chiffrage aussi, ça dépend aussi parce que c'est basé aussi sur des prévisions de ce qui va se passer progressivement, combien d'heures sup vont être données, etc., des trucs comme ça. Bon, mais peu importe. Mais l'esprit du paquet fiscal, c'était effectivement au départ, c'est de dire non, mais il faut qu'on donne grosso modo de l'argent aux riches parce que les riches eux, investissent et qui vont produire plus, etc. Et on a besoin de l'économie de l'offre, n'est-ce pas ? Et donc on a besoin de ces gens-là qui reviennent en France et qu'ils produisent plus, etc. Et c'est dans une logique de dire les inégalités vont s'accroître, mais les inégalités sont une bonne chose parce que peut-être qu'elles s'accroissent, mais en même temps, ça va entraîner tout le monde, n'est-ce pas ? Donc on va agrandir le gâteau et donc les plus pauvres vont aussi en profiter. Et c'est un peu le modèle qu'appliquait Bush aux États-Unis, n'est-ce pas ? Et même les Anglais, n'est-ce pas ? D'ailleurs, l'inégalité... Ça, c'est l'esprit. Alors, après, ensuite, maintenant, on nous sort, oui, non, le paquet fiscal, c'est pour stimuler la consommation, ce qui est une imbécilité, parce que si on veut stimuler la consommation, on donne pas l'argent aux riches, on le donne aux pauvres. Là, ça, c'est une évidence. Moi, personnellement, j'ai bénéficié des baisses d'impôts de Sarkozy, etc. Je suis un catégorie, et j'ai pas consommé plus que ça, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être, j'ai mis l'argent à banque qui va servir à acheter des titres de la dette, n'est-ce pas? Et donc, ça va être un circuit.
Mais là, vous élargissez, non, mais vous les élargissez la question du chiffre à la question des relations causales. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un chiffre à l'autre et qu'on a l'impression effectivement, mais c'est, l'exemple que vous donniez était tout à fait frappant, c'est-à-dire que vous avez des gens quand on les écoute qui établissent des relations causales qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et c'est là où c'est étonnant. Alors on peut dire c'est de la théorie économique, donc du coup c'est normal que les gens s'opposent, sauf que ils vous avancent des chiffres qui paraissent tout à fait convaincants.
En économie, on dit corrélation n'est pas causalité.
Voilà. Non mais c'est le choix des chiffres aussi. Hein, on a un modèle, on va choisir le chiffre qui m'arrange. Hein. Donc on va prendre le chiffre qui va plutôt dans mon sens. Je veux dire histoire des États-Unis, bah, on va prendre soit l'emploi. Le taux d'emploi, soit le chômage, n'est-ce pas? Et comme c'est pas exactement pareil, et dans tous ces cas, c'est ça, difficulté. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très symptomatique, qui n'existait pas avant, et qu'on voit maintenant dans tous les journaux, économie et tout ça, la tribune, on pose une question à quelqu'un, et une réponse oui ou non. N'est-ce pas? Est-ce que l'euro est trop élevé? Alors, un type qui dit oui, un économiste reconnu, réputé, qui a fait beaucoup de modèles économétriques, etc., il dit oui. Et l'autre, il dit non. Et c'est un type aussi très reconnu, etc. Alors là, il y a un problème. Alors, si on regarde leurs arguments, c'est que chacun s'appuie sur un schéma différentes, une relation causale différente. Alors, le problème fondamental en économie, c'est que comme on peut pas faire d'expérience, alors là, on parle un petit peu d'histoire, la science, vous avez parlé un petit peu au début. Effectivement, comme on peut pas trancher et dire, là, il y a vraiment une vraie loi qu'on peut appliquer systématiquement parce que c'est prouvé, établi et ça se vérifie toujours, eh ben, il y a des gens qui coexistent avec des lois auxquelles ils croient plus ou moins, n'est-ce pas, basées sur des données, des observations relatives et tout ça. Puis ça, c'est le problème de l'économie.
Ça pose aussi une question, c'est toute cette part qu'il y a dans l'activité économique de phénomènes qui relèvent de quelque chose, alors qu'on peut appeler irrationnel ou inquantifiable ou immesurable, vous allez encore vous énerver, mais qui sont la confiance ou ce type de choses, qui sont complètement hétérogènes avec la question du chiffre, pour le coup, Bernard Guérien.
Oui, non, bien sûr. Je pense que y a des indicateurs. Je pense qu'il y a un truc qui est intéressant en France à ce niveau-là qu'on peut quantifier, c'est le fait que les gens ont des enfants. C'est le pays qui a la démographie la plus élevée. Alors on peut le relier aussi. Bah,
est-ce que ça, ça se mesure quand même.
Oui, justement, on peut le quantifier. Oui, voilà. Non, mais parce que je reviens à ce qu'ils disaient. Alors, je pense que. Mais je pense.
Le problème des familles recomposées, ça va faire du flou.
Non, mais moi, je suis toujours un petit peu pour. Il se trouve que je circule pas mal d'un endroit à l'autre. Alors, je suis contre les techniciens, ceux qui ont une vision très noire. C'est pour ça que je suis intervenu dans ce sens-là. Alors, par exemple, quand on est en train de parler des 35 heures, les effets indirects des 35 heures, c'est peut-être ça, parce que personne ne veut les enlever en même temps. Et je pense que si on regarde autour de soi, eh bien, ça a réorganisé la vie des gens et ça a joué sur ce facteur-là.
Faites un lien entre les 35 heures, le fait que les gens aient des enfants.
Je sais pas, vous n'avez pas d'enfants, vous, tout ça, vous n'avez pas de famille, regardez autour de vous. Moi, j'ai pas. Moi, je suis plutôt. J'ai des petits-enfants, mais je regarde. Je pense qu'il y a un facteur qui est très important, peut-être qu'on ne l'a pas dit là, c'est qu'il y a la statistique, et je pense que c'est très bien qu'il y a la statistique, etc. Mais il faut aussi que les gens, ils observent autour d'eux, n'est-ce pas? La compréhension vient de la statistique aussi, et c'est pour ça que parfois ça choque.
C'est quoi, c'est le common sense?
Oui, c'est ça, par exemple, oui, quelque part, le sens commun, etc. C'est assez difficile à exercer, n'est-ce pas? Puis je pense que ça, on voit quelque chose de ce genre-là, on se dit, tiens, ben, on regarde autour de soi un peu. D'où ça vient? Alors ça ne va pas apparaître dans les statistiques, mais c'est un facteur qui est extrêmement important. Quoi.